France Musique.
On est avec notre invité, il est de retour, Skip Sampé, grand claveciniste, grand chef baroque américain, avec un nouveau disque sur votre label Paradiso, Bach, Tradition et Transcription, des transcriptions signées Gustave Léonhardt, dont vous jouez d'ailleurs l'un de ses instruments, un clavecin rouge dont on va parler. Bonjour Skip Sampé.
Bonjour.
Et bienvenue. Je le disais, musicien américain, mais aussi français, vous avez été naturalisé.
Oui.
Récemment.
Oui, oui.
Une simple formalité.
Double nationalité. Ah non, c'était un vif souhait. Hein. À un moment donné, il fallait devenir un bon européen officiel.
Ça vous a fait quelque chose après 4 décennies en France?
J'ai toujours vécu en France et en Hollande comme un indigène, en fait, qui m'a beaucoup plu, en fait. C'était pas toujours le plaisir de tous les autres. On m'a trouvé un tout petit peu prétentieux, que j'étais tellement confortable en France ou en Hollande, où j'ai vécu pendant des années aussi.
Demain, le monde va célébrer les 20 ans des attentats du 11 septembre. Vous, l'Américain natif de la Nouvelle-Orléans que vous êtes, Skip Sampé, est-ce qu'il a été, même s'il est très européen, touché dans sa chair il y a 20 ans quand l'Amérique a été attaquée?
Pas vraiment, parce que j'ai quitté les États-Unis en 80, juste après le conservatoire. Parce que mon souhait était de vivre jusqu'à la fin de mes jours en Europe et probablement en France. J'ai pas trop cherché. J'étais très séduit par Paris et par la France. C'était autre chose en 80. La musique baroque était pas ce qu'on a en ce moment en France. 40 ans plus tard. Mais j'étais pas particulièrement affecté parce que ma présence aux États-Unis est devenue des tournées pendant 2 semaines chaque année, voir la famille, etc., pendant 1 semaine, 2 semaines. Et j'étais déconnecté de ce syndrome du 11 septembre. Ça a beaucoup troublé le monde, ça a beaucoup troublé les voyages en avion. On a toujours les souvenirs de ça de nos jours. Maintenant, les problèmes de Covid couvrent un tout petit peu les autres problèmes de voyage. Et je suis pas très politique. Je trouve triste que le monde est dans un tel état de nos jours, spécialement avec les problèmes de climat, qui est quelque part la faute de tout le monde, je suppose, sauf les innocents total. Voilà. Mais bon, voilà.
Eh ben, on va être musique jusqu'à 9h avec notamment Jean-Sébastien Bach.
Thank you.
le largo de la sonate pour violon, 1005 de Jean-Sébastien Bach, au clavecin, par Skip Sempé, sur ce disque qui vient de paraître chez Paradiso, Bach, tradition et transcription, des transcriptions signées Gustave Léonard, votre maître, on peut le dire, Skip Sempé.
Ah oui, facilement, oui.
Comment vous avez imaginé, conçu ce disque où il y a ces transcriptions, mais il y a aussi, alors d'une part, d'autres compositeurs que Bach, et puis des chemins de traverse, il y a ici quelques variations Goldberg, tout à coup. Comment vous avez pensé ça?
C'est un disque récital, c'est-à-dire qu'un disque récital peut avoir un thème aussi. Et le thème de ce clavecin, le thème caché, c'est un des clavecins de Leonhardt, avec la musique qu'il a particulièrement aimé, apprécié, du Bach, des compositeurs allemands du XVIIe siècle qui ont influencé Bach dans sa jeunesse. Mais aussi, il y a le clavecin, il y a la prise du sang, il y a le tempérament, il y a le tout. Et j'ai reçu cet instrument quelques mois après la mort de Leonhardt, mais ça a pris du temps pour digérer ça.
Donc il y a une dizaine d'années. Hein.
Oui, et pour finalement faire un enregistrement sur ce clavecin qui était très sentimental, de sang et de facture, et aussi sentimental dans le purement sentimental.
Dans la pochette de ce disque, il y a les photographies de ce clavecin rouge absolument superbe, avec des dessins, on dirait presque des dessins orientaux ou japonais. Comment vous avez...
Oui, c'est un chinoiserie un peu naïf qui était fait par le facteur, qui est un des plus grands facteurs du XXe siècle, qui est mort maintenant, qui s'appelait Martin Skowronek, qui a travaillé uniquement avec ses deux mains et les deux mains de sa femme dans son atelier à Brême depuis 54-55.
Vous vous souvenez de votre coup de foudre, on peut dire, pour cet instrument-là, tout
oui,
rouge?
Oui, la première fois que Leonhardt m'a entendu était dans un masterclass dans le Michigan aux États-Unis à Grand Rapids, et j'ai joué une suite de Louis Couperin et quelques toccates de Froberger juste avant la pause déjeuner, et on était 10 ou 12 dans le masterclass qui était organisé par l'université du Michigan qui était juste à côté de Oberlin où j'étais au conservatoire pendant 4 ans. Et j'ai remarqué que tout le monde a eu un peur bleu de Leonhardt en jouant, et spécialement à l'heure de déjeuner, parce que on était tous dans une espèce de buffet avec lui. Il était tout seul sur à table, et tous les autres élèves ont eu tellement peur de lui qu'ils n'ont pas approché. Et je me suis dit, on peut pas laisser Gustav Leonhardt déjeuner tout seul. Et j'ai approché la table, j'ai dit, est-ce que je peux déjeuner avec toi? J'étais déjà très informel, ça resterait toujours. Il a dit oui, bien sûr. On a commencé à parler de Louis Couperin et de Froberger, et il a dit, je viens de recevoir un clavecin qui est absolument sensationnel pour Louis Couperin. La prochaine fois que tu es à Amsterdam, il faut passer à la maison le voir. Et il a dit, ah, j'ai une photo de ça, et de sa portefeuille, dans la poche, il a pris une photo de ce petit clavecin, une espèce de photo de voyage, mmh. Et je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose. La plupart des gens se promènent avec une photo de sa femme ou de ses enfants, mais on a vraiment quelque chose en commun, parce que je connais personne d'autre au monde qui va porter avec lui une photo d'un de ses clavecins. Et on est devenus amis instantanément, et c'est pour ça que j'ai jamais eu peur de Gustav Leonhardt. Parce qu'il faisait peur.
Il était très austère.
Il était austère. Il faisait peur aux plupart des gens, mais il m'a jamais fait peur. Et comme ça, j'ai tant appris, parce que le jeu dans les cours et tout ça était libre. C'était le meilleur auditeur, et j'ai su. Donc j'ai toujours essayé de très bien jouer pour lui, et c'est comme ça que j'ai tant appris de lui.
Il vous a légué cet instrument.
Bah.
en quelque sorte.
À sa mort, il a laissé un petit mot à la famille que les claves, que ces instruments, c'est cet instrument passera aux amis clavecinistes, mais il a pas dit qui. Donc c'était à nous de déterminer qui étaient les amis clavecinistes. Mais pour nous, c'était évident que c'était moi, Pierre Rontaille, Olivier Fortin, Sibe Henstre, Menno van Delft, etc. Les amis de longue date.
Skip Sempé joue son ami et son maître, les transcriptions de Jean-Sébastien Bach. Un nouvel extrait de ce disque, Bach, tradition et transcription. Skip Sempé, notre invité ce matin au clavecin dans cette gavotte, écrite à l'origine pour violoncelle. C'est la sixième suite pour violoncelle seule de Bach, transcrite par Gustave Léonhardt. Mais alors pourquoi Skip Sempé, pourquoi Léonhardt a-t-il transcrit ses œuvres pour violon et violoncelle de Bach alors qu'il existe tant de pièces pour clavier?
Très très bonne question, si je peux me permettre. Léonhardt, comme Harnoncourt, a eu une formation de violoncelle et de viol de gambe. Ils étaient tous les deux mariés avec les violonistes qui sont devenus les violonistes baroques. Donc l'archet était très important chez les Léonhardt et chez les Harnoncourt. Donc l'archet fasciné. Moi, j'ai eu aussi une formation de violoncelliste, raté, mais violoncelliste quand même. Et raté très jeune, je veux dire. Et donc, Bach lui-même, on sait que Bach lui-même a joué les pièces, soi-disant pour violon seul, par exemple, au clavier, il a arrangé les trucs. Il y a même quelques sources, 18e siècle, du cercle de Bach, qui démontrent comment cette démarche était faite pour le clavier. Et Léonhardt a accepté cette idée. Et la première chose qu'il a fait était de transcrire un des œuvres du violon seul où on a uniquement le premier mouvement qui vient de nos jours du 18e siècle. Mmh. Donc la première chose qu'il a fait était de compléter les trois autres mouvements, et il a tellement aimé l'exercice Et il a eu un tel succès devant le public avec ça, partout dans le monde. Il a joué ses trucs partout dans les années 60, 70, 80. Et finalement, il a fait le tout. Et après ça, il a commencé sur les œuvres pour violoncelle seul, qui sont un peu plus simples dans ses transcriptions que ses transcriptions en venant du violon. Mais j'ai toujours adoré ses pièces. Il a jamais voulu qu'il soit publié, malgré le fait que pendant que quelques années après sa mort, Barenreiter a publié ça.
Donc là, c'est publié, on peut.
C'est publié maintenant on peut. Mais il a gardé ça secret pendant les années. On a les élèves ont parfois demandé de les voir. Il a montré, mais il a dit vous pouvez pas les copier. Il faut faire vos propres transcriptions et voilà.
Quelque chose que vous dites dans ce disque Skip Sampé, c'est que un recueil comme celui-ci, des transcriptions comme celle-ci, interroge sur l'interprétation, sur la question de l'intention de l'interprète, c'est-à-dire.
Oui, c'est-à-dire, on peut, bon, de nos jours, on a des disques, c'est-à-dire on a des traces sonores de Stravinsky qui dirige Stravinsky ou Rachmaninoff qui joue du Rachmaninoff, Bernstein qui dirige du Bernstein. C'est-à-dire que en préparant ces transcriptions de Leonhard pour ce disque, on se demande si on joue exactement comme Leonhard ou si on utilise ses interprétations et ses souvenirs sonores en disque uniquement comme inspiration et après on fait notre propre inspiration. C'est ça que j'ai décidé de faire. Mais toute cette idée de historically informed performance, toute cette idée de faire comme à l'époque, s'il n'y a rien à copier, on se pose toujours la question fameuse d'Arnoncourt, qu'est-ce qu'on fait?
Et
quelles sont nos influences?
Mais est-ce que c'est important de jouer comme Leonhard aurait joué ses propres transcriptions,
je
comme Bach aurait joué?
Non, mais on ne sait pas comme Bach a joué parce qu'il n'a pas laissé de disque. Ça, c'est la question. Très intéressant, mais c'est toujours ouvert au débat. L'autre raison pour laquelle Leonhard s'intéressait dans cette musique, c'est que la plupart du musique de Bach pour clavier, pour clavecin ou clavicorde, bien entendu, pas pour l'orgue, sont en fait dans le style galant où ils approchent en chronologie du style galant. Et Leonhard, il a beaucoup aimé, et moi aussi, le jeune Bach et le Stilus Fantasticus, tout ce qui est en venant du violon et avant le période galant des partitas, suite française, suite anglaise, deuxième livre du clavier bien tempéré, parce que tout ça, c'est de la musique presque galant. Et ce que moi j'adore chez Bach, c'est la musique avant 1720 ou 25.
Alors là, justement, je vous propose de remonter un peu le temps avant Bach.
Thank you.
Un extrait de Terpsichore de Michael Pretorius, Capriccio, Stravagante, un ensemble que vous avez fondé, Skip Sankpe, il y a 35 ans. Comment va-t-il cet ensemble face à la tempête et à la crise de ces 18 derniers mois?
En fait, j'ai décidé au début de la crise sanitaire de ne pas faire un énorme effort. Je me suis dit, parfois il y a des événements dans le monde culturel, monde en général, et il faut réfléchir, travailler, faire de la recherche, communiquer comme on peut. Mais l'idée de revenir devant le public, bien sûr que le public manquait, mais mon idée de base était de faire quelques disques pour Paradiso, de faire du développement pour le Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra, parce que là, on est sur un ensemble qui est complètement unique au monde, parce que il y a pas un seul instrument présent sur scène qu'on trouve dans un orchestre baroque ou classique ou romantique ou moderne.
C'est
que des viols, des flûtes à bec, des cornets, des sacs-boutes, des virginales, des clavecins, des luths, des harpes, des orgues, des régales. C'est tout. C'est un instrumentarium qu'on trouve jamais dans quoi que ce soit autre qui s'appelle un orchestre. Et c'est pour ça que cet ensemble est tellement important.
Les instruments, justement, vous aviez ce projet de jardin des instruments, un peu à la façon du jardin des voix de William Christie, pour mettre en valeur les instruments. Parfois, vous trouvez qu'on fait trop de vocales, ou en tout cas trop d'opéra baroque en France. Vous en êtes où?
Non, on fait trop de musique vocale en France et partout dans le monde. La musique vocale m'intéresse énormément, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la musique instrumentale où, à mon avis, il n'y a pas assez d'entraînement très très haut niveau dans les conservatoires en France ou ailleurs. La musique baroque et le chant baroque est quelque chose qui est devenu très amateur de nos jours, malgré le succès.
C'est-à-dire on joue moins bien qu'avant.
C'est-à-dire non, on chante moins bien qu'avant. On joue mieux, mais peut-être on chante un peu moins bien, avec un peu moins de connaissances. La musique renaissance et la musique baroque, il y a un modus operandi en composition qu'il faut comprendre pour le bien jouer ou pour le bien chanter. On peut pas faire n'importe quoi en venant du lyrique en musique renaissance ou musique baroque.
Mais pourquoi justement Skip Sankpe, vous n'enseignez pas?
Parce qu'on m'a jamais demandé.
Ah oui.
On m'a jamais demandé. On m'a demandé.
Si on vous le demandait, vous le feriez?
Je ne sais pas. C'est-à-dire que les
institutions. Il y a des gens qui nous écoutent ce matin.
Oui, mais les institutions me plaît et me déplaît en même temps. J'ai toujours adoré la notion de rester libre des institutions. Donc, je me suis mis un tout petit peu à l'écart, aussi comme Pierre Antaille. Hein. Parce que Pierre Antaille n'était jamais
autre
demandé pour un poste en France non plus. Et si Pierre Antaille n'enseigne pas le clavecin en France et j'enseigne pas le clavecin en France, il faut que les gens cherchent ailleurs. Donc, nous, on enseigne en privé. Mais c'est tout, et je fais bien sûr mes cours annuels à la Villa de Médicis à Rome, que j'aime énormément et qui attire les meilleurs élèves de clavecin au monde, et c'est ça que j'aime en fait.
C'était une blessure qu'on ne vous demande jamais d'enseigner en France, votre pays d'adoption?
Pas vraiment. Non, on peut pas tout faire. On peut aussi décider d'enseigner et de ne pas faire une carrière de concertiste ou de ne pas devenir éditeur discographique.
Oui, parce que Paradiso, c'est votre label.
Je préfère être musicien et éditeur que d'enseigner dans un conservatoire. C'était un choix.
C'est chez Paradiso que sort ce disque. Bac, tradition et transcription. Skip Sankpe, merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de France Musique. On a dit, il y a Bac au programme de ce disque, mais pas seulement, il y a aussi Johan Kuno. Un petit prélude en sol de Johann Kuhnau, Skip Sempé au clavecin sur ce disque qui paraît chez Paradiso. Merci Skip Sempé. Lundi, notre invité sera le violoncelliste Gaspard Klaus. À la technique ce matin, c'était Victoria Hodge et U2 Diego Aclopez. À la production, Marion Guillemet, Florian Sternadel et Pierre Matignon. Et à la réalisation, Yacine Bouzard. La réponse à notre jeu, il y a une heure, on écoutait Agnès de Sarthe, un extrait de l'émission de Priscille Lafitte dimanche. Et Agnès de Sarthe, dans ses coups de cœur musicaux, elle évoquait Franz Schubert. Un coup de cœur quotidien pour Émilie Munera et Rodolphe Bruno-Boulmier. Bonjour. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jean-Baptiste,
quels sont vos coups de cœur?
Nous serons baroques aujourd'hui aussi, puisque c'est une messe en si de Bach qui sera disque du jour par l'ensemble Liangeli de Genève, dirigé par Stéphane MacLeod, avec un tout petit chœur, 10 musiciens à peine.
Une petite messe en si.
Une imposante messe en si avec un petit cœur, voilà. Absolument.
Et un tout petit week-end pour vous.
Oui. Mais non, un énorme week-end. Allez, à lundi.
À lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.